Je vous présente maintenant notre conférenceur d'honneur qui va faire le discours liminaire, qui va parler de son travail et de sa relation avec le projet. Antonio Maione de l'Université McGill, l'Institut pour l'étude du Canada, est aussi professeur en sciences politiques. Elle est William Dawson Scholar. Elle a travaillé sur des projets qui ont été financés par le Conseil de recherche en sciences humaines et par les instituts de la santé du Canada, qui portent sur les politiques publiques, la réforme de la santé. Et elle m'a promis de stimuler la pensée, stimuler la discussion. Alors, avant de provoquer par sa pensée, elle est capable. Elle est capable. Ça vous. Mais vous pouvez procéder à la soupe quand même.
Sera en anglais, quoique il y a des parties de la présentation que j'ai écrites en français, donc je vais le mettre ici. OK. This is the problem about being small. Yes. Non, mais je vais mettre ça ici. OK. So when I was asked to speak here tonight, I
m'avait demandé de prendre la parole aujourd'hui. J'ai commencé à faire cette présentation en français. Je suis revenu vers l'anglais, mais je ferai la présentation en anglais parce que j'aimerais en fait parler des minorités de langue anglaise, c'est-à-dire le groupe cible de ce même projet, pour lesquels ces projets ont été créés, qui ont été mis sur pied. Et j'aimerais parler du contexte politique. Je remercie les organisateurs qui m'ont donné l'occasion de venir ici vous parler. Et je les félicite. En fait, parce que ça a été un projet des plus intéressants. Le sujet, c'est de surmonter les barrières de langue, les barrières de culture dans la prestation des soins de service aux minorités linguistiques. Donc, je pense qu'il serait utile, ce soit de vous surmonter certaines barrières politiques qui pourraient exister, qui pourraient peut-être vous aider à mieux comprendre les politiques publiques en santé au Canada aujourd'hui. Et je vais vous parler en fait du sort des minorités, surtout les minorités anglophones dans le domaine de la santé, surtout dans le contexte des politiques publiques, comme le doyen l'a dit. On regarde comment les institutions politiques peuvent façonner les résultats. La question que je vous pose, c'est très simple. De quelle manière est-ce que la politique peut avoir un impact sur les politiques publiques en santé? Ou est-ce que la politique, c'est utile pour la santé? Est-ce que ça favorise la santé? Est-ce que ça favorise la santé des minorités anglophones au Québec? Plus précisément, comment est-ce que la politique impacte la santé des minorités anglophones? Donc, il y a trois éléments que j'aimerais examiner dans ce rapport. Premièrement, là, c'est-à-dire les politiques publiques en santé au Canada en général, ensuite les conditions de la situation politique, et ce n'est pas une perspective partisane. Je ne parle pas au nom de l'université, je ne veux pas insulter qui que ce soit. Et troisièmement, c'est quoi les conditions spécifiques des défis des communautés anglophones au Québec et d'autres minorités linguistiques en général. Le premier message, même si nous parlons de la communauté linguistique ou de minorités linguistiques dans le contexte de la santé, il faut garder en fait le contexte plus large de la santé au Canada. Le contexte de la santé au Canada, ce n'est pas uniquement des questions de communauté linguistique, mais tous les Canadiens. Ça touche tous les Canadiens. Donc, il y a déjà des problèmes avec le contexte sanitaire au Canada. Il y a aussi des questions qui se posent dans le contexte des services sociaux. Donc, ce n'est pas dans un vide. Ces problèmes pour les minorités n'existent pas dans un vide dans toutes les provinces canadiennes. Ce que les communautés ont choisi de faire, c'est de créer des systèmes qui reflètent l'idée de la santé comme un bien public. nous avons, au décideur, nous avons une certaine marge de manœuvre pour développer et mettre sur pied, pour financer la prestation de services dans le contexte d'accès égal, distribution égale de ce bien public. En fait, Canada a réussi, en fait, très, très bien, en fait, dans la poursuite de ces objectifs qui sont très nobles. Le Canada dépense beaucoup dans le domaine de la santé. Mais le Canada, en fait, cherche à établir un accès équitable et universel. C'est un pays qui privilégie les avancements, le progrès de la médecine. Où, en fait, nous sommes en fait, le niveau technologique de la santé, c'est à envier, à admirer, c'est admirable, en fait. Nous avons des faiblesses au Canada parce que dépenser, ce n'est pas toujours nécessairement dépenser mieux. Et parce que c'est l'argent dépensé revient surtout des revenus publics. Nous sommes dans un secteur qui est très politique, très politisé. Les décisions touchant les dépenses publiques sont des décisions lourdes et ce sont des fardeaux très lourds que le gouvernement doit soutenir à travers le pays, même si nous avons un régime de soins de la santé qui doit chercher à résoudre les problèmes des coûts, les barrières de coûts. Le Canada, en fait, a bien une façon, on a réussi à développer un système qui offre un accès égal, une recherche clinique de classe mondiale et qui assure la redistribution des ressources en santé. C'est quand même assez cher pour financer notre système. Il y a des lacunes, évident, parce qu'on s'en accès à certains soins. Il y a des problèmes dans l'organisation. Il y a des défis en ce qui concerne la suite ou le continuum des soins. C'est ça, les travailleurs de première ligne le savent. Les intervenants sur le terrain le savent déjà. Mais ça fait partie de la santé au Canada. Il y a aussi des demandes croissantes. On parle dans le public, les prestataires, c'est pas uniquement les prestataires du soin de santé, mais il y a des intérêts comme professionnels, comme groupes professionnels, groupes autonomes, comme groupes ayant une certaine influence économique. Aussi les utilisateurs, du côté des utilisateurs, en fait, du côté d'un soutien admirable, nous sommes allés jusqu'à en fait, un système plus fragile en fait, en matière de consensus. Et la perte de confiance en fait, dans les soins de la santé au Canada. Le gouvernement demande de plus en plus de mesurer, demande des résultats réels. Et ça crée tout un fardeau sur les prestations des soins de la santé et sur les intervenants en santé. Le système de soins de la santé n'est pas parfait en ce qui concerne le processus de gestion des changements. C'est sûr, il faut savoir gérer les changements pour répondre aux besoins du 21e siècle, y compris les défis d'ordre démographique qui s'en viennent. Ceci étant dit, maintenant, il faut comprendre où en est la situation, où en est le régime santé aujourd'hui, par rapport à certaines communautés linguistiques ou par rapport à certaines minorités. Et à ce moment, ce soir, je n'ai pas besoin de discuter le financement, parce que d'habitude, c'est comme c'est tout utopique. Alors, on ne va pas parler du financement. Ça, c'est, mais l'argent, c'est quand même, c'est un élément primordial. Et surtout, alors, comment est-ce qu'on... C'est quoi le prix de la santé? Ce n'est pas l'offre et la demande. Même si certains économistes voudraient le croire, la demande, c'est sans limite. La demande, c'est sans limite quand vous travaillez sur le terrain. L'offre est plus rare, est plutôt rare. Les consommateurs ne prennent pas les décisions d'achat. Donc, c'est pour ça qu'il faut des politiques publiques. Parce que c'est le gouvernement qui doit réglementer l'offre et la demande, assurer la redistribution des ressources, financer les services et négocier avec les fournisseurs. Le gouvernement participe et la politique est impliquée. Et les décideurs qui influencent notre orientation politique vont avoir un impact sur l'argent, les ressources. Et pour le groupe de minorités linguistiques, les décisions concernant la distribution des soins de santé, c'est encore plus compliqué à cause de tous les intervenants, la grande diversité d'intervenants qui participent à ces décisions, à ce processus décisionnel sur le financement au palier local, régional, fédéral. Donc, j'arrive à un deuxième argument, c'est-à-dire que les soins de santé, c'est qu'en en fait, il y a une politique, c'est influencé par la politique. Et c'est doublement sous l'influence de la politique, parce que d'un côté, nous avons la politique partisane, qui a déjà un rôle à jouer, mais de l'autre côté, nous avons aussi les tensions politiques qui sont un facteur important de fédéralisme, autrement dit, les disputes entre Ottawa et le Québec. Donc, les conflits d'ordre qui sont de nature partisane, parce qu'on parle de bien public, on parle de l'allocation des ressources, ça devait être un débat public, ça ne devait pas être un débat partisan. On devrait avoir le droit de faire le débat public qui implique, en fait, différentes voix de différentes convictions partisanes. Mais le conflit de nature partisane, malgré le consensus public, si le monde convient de la valeur de la santé comme un bien public, tout le monde cherche un accès égal, mais de plus en plus, il y a une division politique croissante. Comment aborder l'avenir? C'est quoi la réforme nécessaire, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec? Non seulement enfin, dans une division entre le gauche et le droite ou en genre de la politique des partis, mais il y a des groupes d'intérêts. En fait, qui se positionne dans les discours sur la santé. Pour les soins de santé, quand même, les conflits du fédéralisme sont peut-être encore plus importants parce que les soins de santé, c'est une responsabilité provinciale. Même si la capacité fiscale est supérieure et est un élément important dans la santé depuis le début. Vous savez tous comment le soin de santé est utilisé comme un instrument politique dans le conflit entre les provinces et le gouvernement fédéral. Les provinces parlent d'autonomie, le gouvernement a quand même l'élément politique avec le PAMP qui est adopté comme la loi sur la santé. Le Parti libéral du Canada, en fait, a insisté sur le rôle fédéral, au grand déplaisir des provinces. Mais quand même, c'était aussi ça coïncidait avec son deuxième engagement, qui est son engagement envers les minorités linguistiques, surtout les anglophones aussi, parce qu'ils avaient besoin de ça. Les soins de santé, c'est comme un symbole du succès et de l'échec du système fédéral au Canada. Quand on parle de rôle de responsabilité, réconciliation de capacités fiscales et juridictionnelles, et d'assurer l'accès égal à travers des régions qui sont très diverses et très différentes. Il y a des plans de 10 ans. Il y a eu un plan de 10 ans qui a été adopté en 2004. Et ce plan de 10 ans a été conçu pour réduire les inéquités dans les relations entre les provinces et le gouvernement fédéral en garantissant les augmentations automatiques pour le financement de la santé. Mais depuis, ce plan de 10 ans a été accompagné d'une nouvelle sorte de leadership fédéral. D'un côté, nous avons le gouvernement fédéral qui veut bien aller au-delà de la fonction provinciale et entrer directement dans l'éducation, les décisions politiques, le budget, le budget quand on parle de formation, par exemple, et certaines provinces. En fait, ont dénoncé, en fait, avec beaucoup de résistance. En même temps que vous avez quand même, en fait, le gouvernement fédéral qui s'ingère dans les responsabilités provinciales, mais nous avons aussi, en même temps, aussi le gouvernement fédéral qui se retire. C'est le contraire en ce qui concerne le pouvoir décisionnel et la réforme. Et je pense que les soins de la santé, c'est le gouvernement se recule. On voit le recul du gouvernement fédéral. Ce qui m'amène à décrire en fait un nouveau fédéralisme qui apparaît à l'horizon. J'appelle ça le fantôme, fédéralisme fantôme. C'est il y a un genre d'attaque stratégique comme l'avion de guerre fantôme. Donc c'est toujours des attaques stratégiques. Et c'est pas genre de un genre de virage politique. Moi, je suis en Sciences Po, alors on a toujours des théories comme ça. Là, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne si le terrorisme change au Canada? Qu'est-ce que ça donne pour les minorités linguistiques, surtout les minorités anglophones du Québec? Ça, c'est la troisième question que je voulais poser. Si le fédéralisme est en train de, en fait, de changer au Canada, et si les discours partisans changent, il y a une importance, parce que les minorités linguistiques n'ont pas les moyens de rester dans une situation où elles n'auront plus de voix, où leur voix n'a plus de poids. Ici, on accuse une absence, en fait, dans la présence fédérale, ou de la présence fédérale sur ces questions de politique publique. Il y a un impact sur les minorités linguistiques plus que sur les autres communautés. En fait, ça peut entraîner, même, peut-être, si le gouvernement s'absente, en fait, son rôle de leadership, peut-être on va avoir de l'innovation dans les provinces. Coopération dans les provinces. Et ça se fait dans une certaine mesure avec le Conseil de la Fédération qui a créé des groupes de travail sur le financement de l'innovation en santé. Mais peut-être on pourra voir en ce qui concerne les changements qui s'annoncent, on pourra voir plus de divergences et de disparités dans les provinces qui peuvent fragiliser la situation pour les minorités linguistiques qui comptent sur l'activité activiste du gouvernement fédéral.
Pour protéger leurs besoins et leurs droits. Nous avons un gouvernement fédéral, et encore, je le répète, ça ne procède pas d'une politique partisane. Il ne s'agit pas d'un gouvernement fédéral qui s'intéresse aux politiques sociales, d'un point de vue intéressé, comme on l'a vu chez le gouvernement passé. C'est un gouvernement qui est plus populiste et majoritariste. Donc, la question des droits des minorités ne s'insère pas très bien avec le reste du programme du gouvernement actuel. Ce n'est pas un gouvernement non plus qui ait beaucoup de résonance auprès des communautés de langue anglaise au Québec. En fait, c'est un gouvernement qui ne doit rien à ces communautés au Québec. Et quand on parle de la politique des soins de santé, eh bien, ceci importe beaucoup. C'est doublement problématique pour les minorités de langue anglaise. Nous connaissons les tensions dans les communautés francophones de nos pays, mais au Québec, chez les communautés anglophones, quand un changement s'opère dans le fédéralisme et qui est amené notamment par l'élection du Parti québécois, eh bien, nous avons eu des ouvertures de la part de gens comme de ministres comme Jean-François Lisée ou quelque chose qu'on pourrait identifier comme étant la gouverne, par exemple, d'un ministre comme Régent Bureau, qui connaît si bien le dossier. Mais en définitive, nous avons un gouvernement qui veut assumer la souveraineté dans le domaine des services sociaux et des soins de santé, notamment. Pas seulement comme un moyen d'affirmer de l'autonomie, mais comme moyen vers d'autres fins. Et le gouvernement du Québec, ainsi, s'engage à réclamer, à revendiquer tout l'espace juridictionnel et chaque dollar d'autonomie fiscale en faveur du Québec. Et cela aura des répercussions sur les minorités linguistiques au Québec. C'est une combinaison intéressante que de voir ce genre de fédéralisme combiné à ce gouvernement au Québec. Placé en contexte avec les défis auxquels sont confrontées les communautés de langue anglaise au Québec en raison de la démographie, la place de ces communautés devient problématique. Ce qui demeure, c'est que la voix de cette communauté comporte moins de poids politique que naguère. Croyez-le ou non, je ne voulais pas vous brosser un tableau sinistre de l'état des communautés de langue anglaise au Québec, mais simplement vous aider à réfléchir aux défis qui se présentent à nous et qui, à un moment donné, interviendront et avec lesquels vous serez en contact dans votre pratique sur le terrain. À bien des égards, les minorités linguistiques à travers le Canada ont connu des réussites. Pensez à ces communautés de langue française qui se sont manifestées dans les provinces de langue anglaise, même quand on regarde la structure par âge de ces communautés. Mais au Québec, c'est un peu différent, car la structure démographique est autre pour ce qui est de l'âge, mais d'autre part, on peut avancer que la communauté anglophone au Québec a pu s'adapter à un modèle assez spécial de prestation des services de santé au Québec, à savoir le modèle québécois qui tente d'intégrer diverses pratiques. Et c'est intéressant de voir comment la communauté de langue anglaise a pu s'intégrer à ce modèle. Et je pense qu'une des façons de, aussi d'y réfléchir, c'est de se dire, c'est de constater qu'il existe une vitalité dans ce domaine, dans cette prestation de ces services. Et nous allons discuter des points forts, mais des points faibles, mais bien sûr des points forts, à savoir la formation, l'éducation, qui peut mener à développer les bons services pour l'avenir. Rappelons-nous également que l'accent mis sur les communautés, sur les spécificités des prestations de services de santé pour ces groupes, nous aiguille vers autre chose, à savoir le rôle de la soins santé qui va au-delà de la médecine. Et il faut l'envisager comme un acte de considération, de prendre soin des gens, prendre soin des communautés, des gens pour lesquels la langue et la culture sont un élément important de leur santé d'ensemble. Merci beaucoup. Il nous demeure quelques minutes pour les questions ou des commentaires, mais je vous demanderai de les faire très brefs, car je ne veux pas vous... vous pouvez également vous adresser à Antonia à l'extérieur. Oui, Jean... Réponse. Dans le travail que j'ai fait sur les tribunaux et les soins de santé, il s'agit surtout de la question de distribution, à savoir ce que peut faire un gouvernement provincial dans le domaine des soins de santé, à savoir où il pourrait être en conflit ou pas avec la Charte des droits et libertés. Mais ici, il ne s'agissait pas encore de communautés linguistiques, mais on peut extrapoler à partir de jugements comme Eldridge en Colombie-Britannique, mais enfin, ça ne cible pas les cours de langue. Langue minoritaire, mais les tribunaux sont le forum, évidemment, pour les gens qui sont sans voix. Donc, si pour l'avenir, les groupes linguistiques auront le sentiment de n'être pas entendus, mais on voit ici qu'au Québec, la communauté anglophone était très active en domaine de l'éducation, eh bien, il ne serait pas étonnant de la voir se tourner vers les tribunaux, et recourir aux tribunaux. J'ai vécu depuis quelques années dans le monde qu'Antonia nous dépeint, et je peux vous dire que son tableau est très exact. Ce projet représente 19 millions d'argent fédéral dépensé au Québec dans deux ressorts provinciaux, l'éducation et la santé, surtout auprès des communautés anglophones, à travers une université de langue anglaise, et beaucoup d'argent est remis au ministère du Québec. Je suis étonné de voir un tel projet survenir et de le voir donner des résultats. Eh bien, on voit, c'est vraiment une belle réussite. Et je pense qu'Antonia, Antonia nous a rappelé dans quelle mesure c'est quelque chose d'assez unique que nous célébrons, que nous fêtons aujourd'hui grâce au travail acharné de gens dont nous vous entretiendrons ces prochains jours.